Radio Okapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous, soyez le bienvenu dans votre rendez-vous d'information sur Radio Okapi. Nous ouvrons cette édition avec les principaux titres de ce matin. RDC, une crise alimentaire sans précédent. 28 millions de personnes menacées par l'insécurité alimentaire, dont 4 millions en situation critique. Bruno Le Marquis appelle à une mobilisation internationale urgente. Goma en prière vers la béatification de Floribert Bwanachui. Le diocèse de Goma rend un hommage fervent à celui que l'Église élève au rang de bienfaiteur, symbole de foi, d'intégrité et de sacrifice. Accord RDC-Rwanda, le ministre de la Communication Patrick Muyaya salue un texte historique et réaffirme l'engagement du gouvernement pour une paix durable dans l'est du pays. Un entretien exclusif avec Patrick Muyaya à suivre en fin d'édition. Nous ouvrons ce journal avec une urgence humanitaire majeure en République démocratique du Congo. 28 millions, c'est le nombre d'hommes, des femmes et d'enfants qui luttent chaque jour contre la faim. Et pour 4 millions d'entre eux, la situation est critique. Le pays se hisse désormais au troisième rang mondial des nations le plus touchées par l'insécurité alimentaire. Bruno Le Marquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies en RDC, tire la sonnette d'alarme. Il alerte également sur la malnutrition aiguë qui frappe près des 4 millions d'enfants déplacés par les conflits. Une crise silencieuse qui est la visite de Tom Fletcher pourrait enfin faire émerger sur la scène internationale, surtout après la suspension de financement américain. Écoutez à présent Bruno Le Marquis au micro de Ronéline Timonera.
Pour les USA, la RDC en 2024 était le premier programme humanitaire au monde avec 920 millions de dollars et du fait des coupures budgétaires, ça a un impact terrible sur les partenaires humanitaires. La RDC était également le pays le plus dépendant au monde de cette aide américaine. Donc l'impact est vraiment massif sur les partenaires, que ce soit les ONG locales, les ONG congolaises, les ONG internationales, les agences des Nations Unies. Nous ne sommes plus actuellement en mesure de répondre à tous les besoins. Nous ne l'étions pas déjà, mais encore moins. Donc ça a été une occasion pour lui, dans son plaidoyer mondial, de dire « Je reviens de RDC, j'ai vu l'impact de mes yeux, en parlant à des personnes affectées, de toutes ces coupures budgétaires au niveau mondial ».
Nord Kivu, le gouverneur, le général Évariste Kakule-Somo a effectué une visite officielle samedi dernier à Butembo. À son arrivée, il a présidé une réunion stratégique avec les membres de comités provinciaux et urbains de sécurité afin d'évaluer la situation sécuritaire dans cette ville clé ainsi qu'à Lubero, territoire voisin. Au-delà de la sécurité, le général Kakule-Somo s'est également entretenu avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, section Butembo, au cœur des échanges, les projets de développement et les perspectives de relance économique pour une région durement éprouvée. Voici maintenant un extrait de son intervention choisie par Martial Papi Mukeba.
Je suis arrivé ici à Butembo sur invitation de la Fédération des entreprises du Congo, section de Butembo et du territoire de Lubero, afin d'échanger sur différents thèmes, notamment les projets qui sont aujourd'hui
pas initiés par la province, dans le cadre du développement des infrastructures et la promotion des activités économiques et commerciales. Et j'ai été très positivement surpris de voir à quel point notre fédération des entreprises est prête à accompagner le gouvernement provincial pour la réalisation de tous ces projets. Nous avons effectivement beaucoup parlé plutôt de cette voirie urbaine, que ce soit pour la ville de Beni où elle est déjà effective. Et ici à Butembo, où elle vient à peine de commencer, notamment la construction et la réhabilitation de plusieurs ponts et bientôt les travaux de réhabilitation de plusieurs avenues dans la ville de Butembo, ainsi que la route de Beni-Butembo où la société DOT vient de lancer des grands travaux.
Sur le plan sécuritaire à Mambasa, en Ituri, la nouvelle société civile congolaise lance un nouvel appel à l'urgence. Sa coordination dénonce une recrudescence inquiétante de l'insécurité marquée par une série de vols à main armée et des cas de banditisme observés ces derniers jours. Dans une déclaration faite ce dimanche, elle évoque pas moins de 7 attaques en l'espace d'une semaine recensées à Mambasa Centre, Biakato et Mayuano. Le coordonnateur de ces structure citoyenne Jospin Paluku précise que les opérateurs économiques sont les principales cibles de ces attaques violentes. Il affirme avoir à plusieurs reprises interpellé les autorités locales pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, mais sans réponse concrète jusqu'ici. Jospin Paluku s'exprime au téléphone, joint par Martial Kizabiamungu.
Depuis le début de ce mois de juillet, aujourd'hui, nous sommes les 6, nous avons enregistré 7 cas de vol à main armée, dont 2 cas ici à Mambasa Centre. Il y a un cas à Kilimamweza, 12 km route Kisangani, dans le groupement Bapongomo, chefferie de Babila Babombi. Nous avons un autre cas à Mayuanu, à 35 km de Mambasa Centre, route Beni, dans la chefferie de Babila Bakwanza. Nous avons 2 cas à Tetouri, toujours là, c'est dans la chefferie de Babila Babombi. Nous avons 3 autres cas à Biakato. En tout cas, on ne savons pas quelle est la cause principale de ces cas de vol à main armée. Nous sommes en train d'alerter les autorités afin qu'ils prennent des dispositions pour mettre fin à ces cas de vol à main armée à répétition.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction de l'administrateur du territoire de Mambasa. Haut-Ouélé, la synergie de la société civile du Haut-Ouélé annonce 2 journées de villes mortes à partir de ce lundi 7 juillet dans tout le territoire de Wamba. Une action citoyenne visant à protester contre la montée préoccupante de l'insécurité dans la région. Dans une déclaration publiée samedi, cette organisation dénonce des cas répétés d'extorsion, des tracasseries et des menaces de mort recensées sur la rivière Ngayo. Elle pointe également le détournement des fonds publics qui paralyse les services essentiels et la vente illégale des concessions dans la zone d'Akokoma par certains responsables étatiques. Par cette mobilisation, la synergie de la société civile souhaite interpeller les autorités locales sur leurs responsabilités et le pousser à agir pour mettre fin à ces dérives. Un extrait de leur déclaration lu par le président Ezekiel Angweti a été sélectionné par Martial Kizabiamungu.
Cette action vise à dénoncer les faits suivants. Insécurité grandissante, répétitive et tracasserie sur la rivière Ngayo à Wamba. Les détournements répétés des fonds publics. La vente illicite des concessions dans la zone d'Akokoma au mépris des règles d'urbanisme, des droits citoyens. Ralentissement des constructions. Exemple, Université de l'Ouélé. Asphaltage des routes urbaines de la ville du Siro, prison centrale de la ville du Siro, etc. Nous n'avons d'autre choix que de recourir à cette action pacifique, dans le strict respect de la loi et de l'ordre public, afin de faire attendre la voix de la population. Par ailleurs, nous demandons l'implication de la justice pour voir clair au dossier de la DGRI. A demandé aussi au gouverneur de changer toute l'équipe qui ne le soutient pas et avoir l'esprit de suivi.
Au diocèse catholique de Goma dans la province du Nord Kivu, les fidèles ont entamé samedi un tridium de prières, 3 jours de célébration spirituelle en hommage à Floribert Bwanachui. Ce moment intense de recueillement culminera mardi 8 juillet par une messe solennelle d'action de grâce marquant sa béatification. Le diocèse entend ainsi magnifier la mémoire de ce martyr de l'honnêteté et de l'intégrité, figure emblématique désormais élevée au rang de bienheureux et dont le témoignage inspire toute une génération. Un récit signé Plotin Yambenga.
Il s'agit de rendre grâce à Dieu qui a voulu qu'un ressortissant de Goma et ancien fonctionnaire de l'Office congolais de contrôle soit reconnu bienheureux et martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale par l'Église universelle pour avoir versé son sang afin de sauver plusieurs personnes. Ceci ressort du communiqué de l'évêque du diocèse de Goma publié samedi et qui renseigne pour la journée des mardis 8 juillet 2025 la célébration de l'Eucharistie qui sera couplée à la translation du corps de Floribert Bwanachui Binkositi en la cathédrale Saint-Joseph, sanctuaire d'adoration à partir des 9h du matin. En prélude à cette célébration, ce dimanche, la famille Saint-Égide de Goma, communauté d'origine des Floribert Bwanachui, a organisé une grande fête. Des enfants et des personnes vulnérables ont été conviés au partage d'un repas avec des membres de la délégation venue des Roms, dont Francesco Tadeschi, un des membres de la communauté Saint-Égidio. Rappelons que la béatification du Congolais Floribert Buonaccio Binko City est intervenue le 15 juin dernier à la basilique Saint-Paul hors le mur à Rome. Au Nord Kivu, quelques initiatives sont envisagées en vue de graver la figure du jeune martyr congolais dans la mémoire collective. L'on parle de la construction d'une stèle de recueillement et probablement de la rebaptisation de l'avenue du lac au quartier Imbi à Goma, à l'honneur de Buonaccio.
Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi a promulgué ce 5 juillet la loi sur l'aménagement du territoire, une réforme majeure saluée par de nombreux acteurs institutionnels et experts qui constitue une avancée décisive dans la gouvernance de l'espace congolais. Selon le ministère de l'aménagement du territoire, cette nouvelle loi dote la République démocratique du Congo d'un cadre juridique clair permettant de planifier, organiser et gérer son territoire de manière durable et efficiente. On écoute à ce sujet Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, dont cet extrait choisi par Jude Mister Bilonda.
La promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, conformément à l'article 140 de la Constitution, est un acte fort qui consacre la matérialisation d'une vision claire, celle d'un territoire congolais organisé, viable et mieux connecté. Ce texte historique, constitué de 8 titres, vient répondre à une attente de plusieurs décennies en mettant fin à l'improvisation dans l'utilisation de nos espaces, aux constructions anarchiques, aux superpositions de titres et aux conflits de compétences entre institutions. Désormais, chaque espace de notre territoire national aura une affectation claire et les communautés seront activement impliquées dans le processus. Cette loi dote la République démocratique du Congo d'un cadre juridique moderne, décentralisé, participatif, capable de soutenir un développement harmonieux et durable.
Province de l'Omami, les travaux de réhabilitation du pont Kamutambai ont été officiellement lancés vendredi dernier. Cette infrastructure stratégique relie la chefferie de Kachisungu à Luputa, chef-lieu du territoire de Lwilu. La cérémonie a été présidée par l'administrateur du territoire en présence du grand chef coutumier Augustin Kabuyabat, des membres du conseil territorial des sécurités ainsi que de la cour royale des Kachisungu. Selon le responsable de l'office des routes, les travaux devraient s'étendre sur une période de 45 jours. L'ancien pont avait été emporté par les pluies, rendant la traversée difficile. Actuellement, le passage des personnes et des biens s'effectue moyennant le paiement de frais provisoires. Éducation réunie samedi en assemblée générale ordinaire à Kinshasa. Les membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC tirent la sonnette d'alarme. L'année scolaire qui s'achève laisse un goût amer. Les grèves à répétition ont empêché l'achèvement des programmes mettant en péril la qualité de l'enseignement et l'avenir des élèves. Dans un message fort, cette structure citoyenne appelle le gouvernement à agir sans délai. Leur exigence, l'application de la nouvelle politique salariale au profit des enseignants, une condition essentielle selon eux pour stabiliser le système éducatif et redonner l'espoir aux professionnels de la craie. Écoutez à présent Jean Bosco Puna, porte-parole de la synergie, joint au téléphone par Blaise Ndongala Mayanda.
Plusieurs enseignants assis, relevant des bureaux gestionnaires, avaient été désactivés et privés de leur salaire par la DINACOP. Sur le plan pédagogique, plus de 80% d'écoles n'ont pas été en mesure de terminer les matières prévues dans les programmes à la suite de la grève des enseignants commencée au début de l'année scolaire, ce qui traduit la persistance du sous-enseignement préjudiciable à la formation de nos jeunes. Plus grave, le ministère de l'Éducation nationale a été incapable de délivrer le bulletin régulier aux élèves. La situation sociale des enseignants prestant dans les zones sous occupation demande que le gouvernement puisse véritablement s'y pencher. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite le gouvernement à lever les options pertinentes pour que la politique salariale se matérialise et accorde un salaire digne, uniforme à tous les enseignants de la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Israël a rejeté la dernière demande du Hamas concernant une trêve à Gaza et la libération des otages, tout en donnant son accord pour une reprise des négociations à Doha sous l'égide du Qatar. Dans la nuit du 5 au 6 juillet, le bureau du Premier ministre israélien a publié un communiqué qualifiant les modifications exigées par le Hamas d'inacceptables. Les principaux points de désaccord portent sur les modalités de retrait de l'armée israélienne dans le cadre d'un éventuel accord de trêve. Israël souhaite maintenir sa présence sur plusieurs axes jugés stratégiques. Un autre point de friction concerne l'aide humanitaire. Le Hamas exige la suppression du mécanisme de distribution mis en place par les États-Unis et Israël via la Fondation humanitaire de Gaza et réclame un retour à une distribution assurée par les agences des Nations Unies.
L'invité.
Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est l'invité de Radio Okapi. Il annonce la création imminente d'une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de l'accord de paix récemment signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au micro de Radio Okapi, il salue un accord qu'il qualifie historique. Il assure que le gouvernement congolais est pleinement mobilisé pour garantir le résultat concret en vue d'un retour durable à la paix dans l'est du pays. Un entretien conduit par Blaise Ondongala Mayanda.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour,
monsieur le ministre. Après l'accord signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, quelles sont les dispositions prises au niveau du gouvernement congolais pour la mise en œuvre effective de cet engagement?
Dans cet accord, il était prévu, dans les 30 jours qui suivent la signature, la création d'une commission mixte de sécurité qui sera censée de suivre notamment sa mise en place du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, spécifiquement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les listes sont apprêtées pour la constitution de cette commission qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de cet accord. Évidemment, une commission qui comprendra aussi les équivalents du Rwanda, mais aussi de tout ce qui s'occupe de la médiation, parce que il faut avoir une structure de cette nature, suivant l'accord, pour être sûr que toutes les actions qui sont posées dans les timings qui sont indiqués sont respectées.
Quelle est l'incidence positive et négative de ces textes?
Je ne pense pas qu'il y a d'incidence négative. L'incidence positive, d'abord, c'est que on s'est accordé pour nous dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, des autres pays. On s'est accordé pour se dire que dorénavant, quelle que soit la nature de problème, on ne peut pas les régler militairement. On s'est accordé, encore une fois, pour nous dire qu'il faut absolument respecter, par exemple, la charte de l'Union africaine sur le principe de l'intangibilité des frontières, nous assurer de l'application de la résolution 2773. Dans cet accord, on a mis en place un mécanisme qui nous permet aujourd'hui pour que la conversation s'efface dans le sens de comment nous construisons la paix et de comment on s'y projette, parce que lorsque nous aurons atteint cet objectif d'une paix que le président de la République souhaite définitive et durable, on pourra travailler pour voir comment on crée un cadre d'intégration régionale qui va bénéficier d'abord aux populations congolaises, mais aussi à tous les pays de la sous-région.
Alors, qu'est dit l'accord, monsieur le ministre, par rapport à la gestion des rebelles de l'AFC M23?
L'accord parle d'autres processus qui sont en cours. Il y a à Doha un processus qui nous met en discussion avec les M23, d'ailleurs un processus qui pourra connaître son dénouement bientôt. Quand on aura fini de discuter avec les M23, pour tout ce qui concerne les questions militaires de ce genre, il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage. Il y aura une intégration au cas par cas, en suivant un processus de vetting. Ça veut dire qu'on va vérifier vos aptitudes physiques, on doit vérifier votre casier judiciaire, on doit être sûr que ceux qui doivent être réintégrés dans l'armée le soient parce qu'ils répondent aux critères. Auquel cas, il y a d'autres qui seront canalisés vers le programme de PDD-RCS qui a été conçu.
Les textes signés à Washington contiennent-ils des mesures coercitives en cas de non-respect de l'une ou l'autre partie?
Les textes en lui-même prévoient de mécanismes de règlement de différends. Ici, un accord, évidemment, s'exécute de bonne foi. Un accord qui a été signé de manière libre. Chaque pays a eu le temps de lire, d'avancer ses arguments. Il faut être justement de mauvaise foi pour sortir de ce cadre signé sous les auspices du gouvernement américain. Jamais on a vu un tel niveau d'implication du gouvernement américain. Pour nous, constitue comme une forme de garantie. Et donc aujourd'hui, pour nous, nous travaillons pour que cet accord puisse produire les effets escomptés.
Le président rwandais Paul Kagame, lors de sa récente sortie médiatique, tacle son homologue congolais, Félix Tshisekedi, sur plusieurs dossiers. Vous ne craignez pas que cette sortie médiatique entrave, voire même jette les pavés dans la mare dans ces processus entamés à Washington?
Il n'y a rien à craindre, parce que de toute façon, de lui, on est coutumier d'avoir des propos, à mon avis. Ces propos traduisent plutôt un certain désespoir, parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Est-ce que vraiment, comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections se tiennent régulièrement, dans un pays où vous avez une pluralité d'opinions, une pluralité des médias? Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinions, il n'y a ni élections crédibles.
Monsieur le ministre, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Vous venez d'entendre Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, qui s'exprimait sur le suivi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Une intervention qui éclaire les démarches en cours pour amener la stabilité dans l'est du pays. C'était le journal de 7 heures sur Radio Capi, mise en onde assurée par Billy Landry Bito, présentation signée Gisèle Cage, sous la supervision de Jude Mister Bilanda. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toute l'actualité en continu sur notre site web www.radiocapi.net. À très bientôt pour une nouvelle édition.